va manquer un peu de place, mais on va se serrer.
Ouais,
super. Il y a aussi un banc derrière, là.
Quoi ?
Bonsoir. Alors, c'est déjà un peu introduit, mais Carole est donc chanteuse et conteuse. Je suis musicien et tous les deux nous formons les Hauts Talons d'Achille, un talon chacun. On a fait un premier chapitre sur des chants, dont un qu'on vient de vous jouer, qui viennent de Bourgogne et de Haute-Loire, des collectages qui ont été réalisés au 19e et puis au 20e siècle.
Plutôt des chants de femmes ou qui parlent des femmes.
Et des chants paysans.
Et si on est là aujourd'hui, c'est parce qu'on est déjà en train de travailler à notre chapitre 2, avec l'aide notamment de l'ACCR 5e saison, qu'on remercie au passage. Ce chapitre 2, il va porter sur le Vercors, et cette fois-ci, ce ne sera pas seulement un concert comme le chapitre 1. L'idée, c'est de faire un spectacle, et donc d'écrire un récit à partir de tout le travail qu'on aura fait, de collectage. Donc on va voir les vieux et les vieilles, on leur pose plein de questions, on les enregistre. Et on fait aussi pas mal de recherches documentaires. Voilà, il y a pas mal de gens qui m'ont vu lire des livres ici. Donc ça fait partie de notre travail de recherche et de ça naîtra un récit et donc un spectacle. Et donc on travaille comme ça sur 5 territoires dans le Vercors. On a déjà été dans la Gervanne, on va aller dans la vallée de Quin, dans le Royan, les 4 montagnes et le Trièves. On finira dans le Trièves là en février. Et à chaque fois on fait des veillées. Donc le principe des veillées, c'est que c'est pas un spectacle. Nous, on vient partager des choses de nos récoltes, des petites pépites, des choses qu'on considère comme des pépites dans nos récoltes, dans nos recherches. Et l'idée, c'est aussi de vous laisser la parole si vous, en tant qu'habitant du Vercors, vous avez des histoires à raconter, des choses à dire. Vraiment, là, la parole, elle peut circuler sans problème, quoi. N'hésitez pas. Et du coup, pour que entendre la voix de tout le monde, on va commencer avec un chant à répondre. Il y en a qui étaient là le week-end dernier, on a chanté un chant à répondre. Donc vous êtes rodés maintenant. L'idée du chant à répondre, c'est très simple, c'est que moi je lance le chant et vous répétez en fait. C'est très facile. Ce chant-là, il vient pas du Vercors, mais tous les autres chants qu'on va vous faire, ils viendront du Vercors. Donc c'est le bois de la nausie, c'est un chant breton. La nausie, c'est la noisette en fait. Mais comme on est en forêt, voilà, je me suis dit c'était chouette de chanter le bois de la nausie. Mon père, il n'avait pas la valeur d'une épille, la valeur d'une épille.
Mon père, il n'avait pas la valeur d'une épille, la valeur d'une épille.
Mais ce qu'il a de bon, c'est une jolie fille. En passant par le bois de la nausille.
En passant par le bois de la nausille.
Mais ce qu'il a de bon, c'est une jolie fille. Là, c'est une jolie fille.
Mais ce qu'il a de bon, c'est une jolie fille. Là, c'est une jolie fille.
Il l'envoyait au bois pour cueillir la nausille. En passant par le bois de la nausille.
En passant par le bois de la nausille.
Il l'envoyait au bois pour cueillir la nausille. Pour cueillir la nausille.
Il l'envoyait au bois pour cueillir la nausille. Pour cueillir la nausille.
Mais le bois était haut, la fille était petite. En passant par le bois de la nausille.
En passant par le bois de la nausille.
Mais le bois était haut, la fille était petite. La fille était petite.
Mais le bois était haut, la fille était petite. La fille était petite.
Monta sur son sabot pour atteindre la cime. En passant par le bois de la nausille.
En passant par le bois de la nausille.
Monta sur son sabot pour atteindre la cime. Là, pour atteindre la cime.
Monta sur son sabot pour atteindre la cime. Là, pour atteindre la cime.
Le sabot a cassé, elle tombe dans les épines. En passant par le bois de la nausille.
En passant par le bois de la nausille.
Le sabot a cassé, elle tombe dans les épines. Elle tombe dans les épines.
Le sabot a cassé, elle tombe dans les épines. Elle tombe dans les épines.
Elle a mis dans son doigt une tant verte épine. En passant par le bois de la nausille.
En passant par le bois de la nausille.
Elle a mis dans son doigt une tant verte épine. Une tant verte épine.
Elle a mis dans son doigt une tant verte épine. Une tant verte épine.
Et son doigt est pourri, l'épine a pris racine. En passant par le bois de la nausille.
En passant par le bois de la nausille.
Et son doigt est pourri, l'épine a pris racine. L'épine a pris racine.
Et son doigt est pourri, l'épine a pris racine. L'épine a pris racine.
Fallut un charpentier pour charpenter l'épine. En passant par le bois de la nausille.
En passant par le bois de la nausille.
Fallut un charpentier pour charpenter l'épine. Pour charpenter l'épine.
Fallut un charpentier pour charpenter l'épine. Pour charpenter l'épine.
Il a tant charpenté qu'il a fait trois navires. En passant par le bois de la nausille.
En passant par le bois de la nausille.
Il a tant charpenté qu'il a fait trois navires. Qu'il a fait trois navires.
Il a tant charpenté qu'il a fait trois navires. Qu'il a fait trois navires.
L'un est chargé de bois, l'autre d'argenterie. En passant par le bois de la nausille.
En passant par le bois de la nausille.
L'un est chargé de bois, l'autre d'argenterie. L'autre d'argenterie.
L'un est chargé de bois, l'autre d'argenterie. L'autre d'argenterie.
Le troisième est à moi pour promener mamie. En passant par le bois de la nausille.
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 Merci. Alors, on va commencer avec une petite histoire qui n'est pas du Vercors, mais qui n'est pas complètement hors sujet. Elle vient d'Inde à la base, d'ailleurs, cette histoire. Dans cette histoire-là, il y a une grande montagne. Et au pied de la montagne, ce matin-là, il y a un homme et son fils. Alors, ils sont bien équipés. Hein. Ils ont les chaussures qui marchent vite, même quand t'es fatigué. Ils ont les vêtements où quand t'as chaud, tu transpires pas. Ils ont la casquette sur la tête, la crème solaire, les lunettes de soleil. Ils ont un sac à dos qui pèse pas lourd, même quand il est plein. Et dans le sac à dos, il y a un truc super pratique, je ne sais pas si tu connais. Ça s'appelle le camel bag. C'est une poche en plastique que tu remplis d'eau. Il y a un tuyau qui sort de la poche comme ça, qui vient jusqu'à ta bouche. Et ça fait que tu peux boire sans t'arrêter de marcher. Comme ça, tu ne perds pas de temps. C'est quand même vachement pratique. Et puis évidemment, ils ont des bâtons hein, pour s'aider à marcher. Et surtout, surtout, patchés sur le bras, ils ont des téléphones hyper, hyper intelligents. qui leur disent combien de kilomètres ils ont fait, combien de dénivelé, en combien de temps, combien de calories ils ont perdu et comment mieux faire la prochaine fois. Et ils grimpent la montagne. Ils grimpent du plus vite qu'ils peuvent, ils s'arrêtent pas pour regarder le paysage, ils grimpent, ils se parlent même pas, ils grimpent, et quand ils sont arrivés tout en haut, ils regardent combien de kilomètres ils ont fait, combien de dénivelé, en combien de temps, combien de calories ils ont perdu, et comment mieux faire la prochaine fois. Puis ils s'arrêtent quand même un petit moment au sommet de la montagne, histoire de faire quelques photos pour les réseaux sociaux. Et puis là, le père dit à son fils, Regarde mon fils, regarde cette vallée, cette rivière, regarde le moulin, les coteaux, les vignes, le village, le clocher, la petite usine qui fume au loin. Tout ça un jour mon fils, ce sera à toi. Et puis ils n'ont pas que ça à faire. Alors ils redescendent du plus vite qu'ils peuvent. Et quand ils sont arrivés en bas, ils regardent combien de kilomètres, combien de dénivelé, combien de temps, combien de calories et comment mieux faire la prochaine fois. Puis un peu plus tard, le même jour, au pied de la même montagne, il y a un autre homme et son fils. Alors ils ne sont pas en tongs non plus, mais ils ont des chaussures qui ne marchent pas vite quand tu es fatigué. Ils ont des vêtements où quand tu as chaud, tu transpires. Un sac qui pèse lourd quand il est plein. Dedans, ils ont une bouteille d'eau. Alors si eux, ils ont soif, ben, ils doivent s'arrêter, enlever le sac à dos, sortir la bouteille d'eau, mais ça n'a pas l'air de trop les déranger. Ils n'ont pas de crème solaire, ils ont quand même quelque chose sur la tête pour le soleil. Ils n'ont pas de téléphone hyper intelligent, ils n'ont pas de bâton dans les mains, mais alors par contre, ils ont le temps. Puis ils le prennent. Puis ils grimpent comme ça, mais très tranquillement la montagne. Et en marchant, ils discutent des choses de la vie. Puis le père qui connaît un peu les plantes, les simples, il explique à son fils à quoi elle sert celle-ci et quand est-ce qu'on la récolte celle-là. Et comme ça, au bout d'un certain temps, ils finissent par arriver en haut de la montagne. Alors là, ils s'arrêtent. Et le père dit à son fils, regarde mon fils. Regarde. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui n'habitent pas dans le Vercors ou autour, là, ici, ce soir ?
Nous.
Ouais, un petit peu. Il y en a beaucoup qui habitent dans le Vercors ou juste autour, au pied ?
Oui.
Ouais ? Chouette. Donc nous, au gré de nos collectes et nos recherches, on a une petite tradition maintenant. C'est que chaque veillée, on fait ce qu'on a appelé un pot pourri. Donc on extrait des phrases qui nous ont plu, qu'on a entendues, ou alors qu'on a lues. Des fois, je triche un peu. Puis on vous livre ça en musique pour vous donner un petit goût des habitants qui nous ont offert leur témoignage et qui ne sont pas là. Quand j'étais enfant, les hivers étaient plus gais. Les gens étaient solidaires et puis tout le monde se connaissait. Aujourd'hui, nous, les natifs, on est en minorité. Moi, pardon, hein, mais j'ai du mal avec les écolos qui viennent de la ville et qui pensent tout savoir sur tout. Ils nous donnent des leçons, mais ils connaissent pas la vie ici. Oh bah avant, il n'y avait pas trop d'horaires, hein, on avait le temps. Aujourd'hui, même moi qui suis à la retraite, je fais que courir. C'est quand même pas possible d'avoir rien à faire et d'être tout le temps occupée. Moi, ce que je regrette pas, c'est les machines agricoles. La vie, elle est quand même devenue bien plus facile. Mais bon, en même temps, maintenant, les fermes, elles sont devenues énormes. À l'époque, les exploitations, elles étaient toutes petites. La lessive, on appelait ça la buille. C'était un travail collectif. Il y avait une fille de chaque ferme qui partait et toutes les femmes faisaient la lessive d'une seule ferme, à tour de rôle, comme ça. Ça tournait. Chaque ferme faisait sa grande lessive annuelle avec l'aide de toutes les femmes. Moi, j'ai toujours dit, on aurait dû arrêter le progrès à la machine à laver. Ben moi, j'ai pas eu le choix. Hein. J'ai dû reprendre la ferme parce que j'étais le seul garçon. dire que j'ai eu l'occasion d'aller travailler à l'EDF. Ça, je l'ai regretté toute ma vie. Avant, on écoutait les parents, on était fous. Aujourd'hui, les jeunes, ils les écoutent plus, ils font ce qu'ils veulent. Ils ont bien raison. Il y a beaucoup de terres agricoles qui sont plus cultivées du tout. Ça fait que la forêt, elle est descendue dans les champs. Avant, derrière chaque ferme des coulmes, il y avait un carré de chanvre. Il était cultivé et filé jusqu'à la guerre de 14. Avec ça, on faisait les filements, les vêtements et puis les draps. Les feuilles de faillard, de hêtre, on s'en servait pour la literie, pour les matelas, quoi. Quand une naissance était prévue à Saint-Marcellin, on commandait les feuilles de hêtre d'en haut, des coulmes. C'était des vieux qui les emportaient sur le dos, c'était vendu à la balle. Pas un enfant ne naissait sans qu'on commande la feuille. Le mélange de boutons d'or et de lard rance, c'était un remède prescrit contre la sciatique. L'hiver, il y avait moins à faire, alors on réparait les outils, on en fabriquait. Et puis les hommes, ils faisaient des paniers. Les femmes, elles tricotaient. Pendant les veillées aussi. Ah, il n'y avait pas de femmes dans les cafés, hein. Moi, j'ai commencé à y aller dans les années 80, 90. Mais aujourd'hui, on peut dire que je suis un vrai pilier de bar. Les femmes divorcées. Ah oui, ça c'était difficile, hein. Elles restaient pas à Ronquerel. Elles étaient rejetées par leur famille. À la Balme, il y avait l'épicerie d'Henriette. Ah, il y avait de tout là-bas. Elle était maligne. Elle faisait des prix beaucoup plus chers pour les touristes. Alors quand j'allais là-bas et qu'il y avait des touristes dans la boutique, bah, elle me faisait pas payer. Elle me disait « Je mets ça sur ta note, hein, comme d'habitude. » Et puis je revenais payer plus tard. Comme ça, elle avait pas annoncé les prix devant les touristes. Il y a une histoire. Il y a une histoire à Ronquerel, c'était au 19e siècle. Une jeune fille, elle est venue à la messe comme tout le monde, mais elle a accouché en pleine messe. Le curé était scandalisé et elle lui a répondu « Tu peux râler, hein, c'est toi le père. » Oh oui, je me souviens, l'éveillé, c'était bien. Nous, on partait avec le cheval et le traîneau. On emmenait mes grands-parents qui vivaient avec nous. On allait comme ça, à l'improviste, chez les uns, chez les autres. Les adultes, ils jouaient aux cartes, puis nous, les enfants, jouaient dans notre coin. Il y avait toujours un moment dans la soirée où les hommes allaient faire un tour à l'étable. Puis là, ils marchandaient les bêtes. Ah, nous, on savait s'amuser. Maintenant, les jeunes, ils savent plus. Mais nous, on allait au bal. Il y avait les vogues, le mai, la fête des conscrits. À la Balme de Ronquerel, il y avait une foire une fois par mois, d'avril à septembre. Les mariages, tout le monde y allait, c'était la fête. Quand une jeune fille du pays partait avec un gars d'ailleurs, le jour du mariage, les jeunes du coin, ils l'attachaient avec des rubans et son jeune mari devait venir la détacher. Oh, c'était symbolique, hein. C'était pour dire qu'on était triste de la voir partir. La fouage, c'était quand on allait couper du bois de chauffage. Tout le monde se retrouvait dans la forêt. C'était un moment de vie sociale vraiment chaleureux, où il y avait des gens qui se côtoyaient pas d'habitude qui se retrouvaient là. Alors nous, à l'époque, on n'avait pas les clôtures électriques. Mais pour empêcher nos chefs de passer sous les clôtures, on leur avait fixé des antennes en métal sur la tête. Ça les bloquait comme ça. Alors les gens, régulièrement, ils nous demandaient « Mais qu'est-ce qu'elles ont, vos chèvres ?» Et nous, on répondait « Elles ont la télé. » La télé, elle s'est répandue avec les JO en 68. Les veillées, elles ont continué un peu, mais les gens, ils se réunissaient pour regarder la télé. Alors plus personne se parlait. Hein. Même moi, quand je revenais chez moi à la maison, une fois qu'il y a eu la télé, on se parlait plus. L'eau, ça a toujours été un problème. Les charbonniers, ils avaient des techniques. Quand ils arrivaient, la première chose qu'ils faisaient, c'est qu'ils creusaient un puits à côté de la cabane ou de la maison pour récupérer l'eau du toit. Puis ça servait pour la vaisselle et le linge. Puis sinon, il y avait d'autres techniques. C'était de fixer une planchette dans un arbre À la planchette, on fixait une chaînette qui descendait jusqu'à un récipient et l'eau, comme ça, elle s'écoulait. Et puis on faisait la même chose en nouant un linge autour du tronc d'arbre. Bon, il y avait bien quelques sources aussi, hein. En général, c'était les enfants qu'on envoyait chercher l'eau. À nous, on n'avait pas peur de la nature, hein. Nos parents, ils nous expliquaient tout. Puis on avait l'habitude d'aller chercher de l'eau la nuit, hein. On n'avait pas peur. Moi, les Coulmes, je l'appelle la montagne des oubliés. Ouais, parce qu'à l'aube des années 80, il n'y avait toujours pas d'eau courante au hameau des Combes, des Glénats, des Prés et des Sables, en Curel. Il y avait vraiment une scission entre ceux d'en haut et ceux d'en bas. Il a fallu que les riverains et les élus se mobilisent pour que l'eau arrive enfin au robinet en 1982. Pendant la guerre, les sources, c'était des cibles pour les Allemands. Nous, les maquisards, on y allait de nuit pour pas se faire tirer dessus et avec des ustensiles, pas en aluminium. Parce que s'ils voyaient quelque chose briller, on se prenait une rafale de balles. Ils venaient pas jusqu'à la source, ça c'était notre chance. Parce que la source, elle était dans les bois et les Allemands, ils rentraient pas dans les bois. Ils avaient trop peur. Le Royan, on dit comme ça que, pour rigoler, que le Royan, c'est le pot de chambre du Vercors. Oui, parce que toute l'eau qui est dessus sur les plateaux, elle s'infiltre dans la falaise, ça fait des rivières souterraines et ça ressort dans le Royan. Quand j'étais enfant, il y avait de l'eau qui sortait. Il y avait des fontaines de tous les côtés. Et puis un beau jour, l'eau, elle s'infiltrait et on la trouvait plus. Et puis elle ressortait un peu plus bas. Un beau jour dans notre champ, pfiout, il y a eu un effondrement au-dessus d'une rivière souterraine. On avait une vache qui avait disparu. On l'a cherchée. Et à un moment donné, au milieu du champ, il y avait un trou recouvert de terre et il y avait la queue de la vache qui sortait. Ça s'était éboulé sous elle. Elle avait été ensevelie et étouffée par la terre. Ah oui, c'était très dangereux, hein. Et puis, il y a toujours des trous dans les champs, ça existe encore. Dernièrement, mon fermier, son tracteur, il est tombé dans un trou comme ça. Il a fallu venir à un engin pour le sortir, hein. En parlant de trous, il y a les cialés. Monsieur Idelon, c'était un paysan à la fin du 19e. Il est sorti de chez lui vers 2h du matin, on ne l'a jamais revu. Son chien, il allait tout le temps au bord du cialé. Alors les gens, ils soupçonnaient qu'il était tombé là. Mais personne n'a osé descendre pour s'en assurer. 10 ans plus tard, une équipe de spéléologues est descendue et a trouvé une botte, 2 bottes, des ossements et un canif ouvert. On ne saura jamais vraiment ce qui s'est passé, mais depuis ce temps-là, on l'appelle le cialé Idelon. Il y a un autre gouffre, pas loin du hameau de Charmeil, à Presles, qui porte le nom du cialé des gendarmes. Là, on raconte que c'est des braconniers qui ont fait disparaître ici toute une brigade de gendarmerie. Les Allemands, pendant la guerre, on les appelait les Doriforts. Puis c'est revenu après avec les touristes. Avec la création du parc, c'est pas gentil, hein. Mais on les appelait les Doriforts aussi. Ma belle-mère, elle disait toujours, les Allemands, ils sont venus nous demander des allumettes et du petit bois. On leur a donné. Mais c'était pour incendier notre ferme. Les Allemands, ils nous ont piqué notre vélo. C'est pour ça que j'ai jamais appris à faire du vélo, moi. J'avais des cousins à Rancurel. Ils avaient plein de livres dans leur ferme. Ils aimaient lire. Un soldat allemand est venu les prévenir que la ferme allait être incendiée pour qu'ils aient le temps de sauver les livres. Il est revenu plus tard, après la guerre, pour voir la famille. Et ça a divisé la famille entre ceux qui voulaient bien lui parler puis ceux qui voulaient pas. Mais aujourd'hui, ses descendants à ce gars-là, ils sont toujours en lien avec les descendants de mes cousins. C'est beau ça quand même. Depuis les premiers temps de l'ère chrétienne, on savait que le charbon c'était incorruptible. La preuve, c'est qu'on en mettait sous les pierres qui bornaient les héritages. Comme ça, s'il y avait contestation, on soulevait la pierre, puis on voyait bien. On faisait ça encore ici, au 19e, à Rancurel. Il y avait certains charbonniers qui faisaient une croix avec des buis et ils la mettaient au cœur de la meule avant la mise à feu. Et il y en avait plein qui racontaient que pendant le cavage, ils récupéraient la croix intacte. Bon, les charbonniers, ils avaient leur saint protecteur, hein, comme tout le monde. En général, c'était Saint Thiébaut. Mais en Provence, c'était Saint-Joseph. Et puis dans le Vercors, c'était plutôt Saint-Antoine de Padoue. Mais il y avait aussi Saint-Louis. Oui, parce que la Saint-Louis, c'est le 25 août. Et ce jour-là, suivant le temps qu'il faisait, on décidait ou pas de préparer la charbonnière pour l'automne. Les charbonniers, encore dans les années 50, la plupart vivaient en famille dans des toutes petites cabanes. La literie, c'était des branchages recouverts de paille et d'herbe sèche. Les couvertures, c'était des vieux sacs de charbon et quelques lambeaux de tissu. Toute la famille était installée là-dedans. Ça faisait comme un nid d'oiseau. On était bien. On mangeait de la polenta trempée dans le lait des chèvres. Oui, parce que les chèvres, c'était la vache du pauvre. Elles étaient mal vues par les agents forestiers, parce qu'elles mangeaient toutes les pousses des jeunes arbres dans la forêt. Puis on mangeait aussi du fromage et les jours de fête, un peu de lard. On travaillait de l'aube jusqu'à minuit. Les femmes, elles abattaient du bois à la hache, même enceintes jusqu'au cou. Hein. Bon, en général, elles accouchaient dans les fermes d'à côté. La plupart des paysans, ils les laissaient pas accoucher dans leur cabane. S'ils étaient bien accueillis, les travailleurs forestiers italiens, vous connaissez un endroit où les étrangers sont bien accueillis, vous ? Les charbonniers, bah, ils étaient nécessairement bûcherons. Hein. Ils avaient des traîneaux pour descendre le bois. Ils freinaient toute leur force comme ça, à la force de leur propre corps. Les accidents, c'était pas rare. Hein. Puis parfois, tout brûlait. Il suffisait d'un charbon encore ardent dans un sac et tout le sac brûlait. Ou bien la charbonnière entière prenait feu, il n'y avait plus que des cendres. Et parfois, c'était pendant le transport que tout se renversait. C'était du savoir oral, le charbonnage. On se transmettait ça dans la famille. S'il y a des gens qui connaissent le chant du charbonnier, il y avait les paroles quelque part tout à l'heure. Cette chanson, elle est apparemment d'un certain André Thurier. Et je suppose qu'il n'était pas charbonnier. On sent un peu l'idéalisation. Voilà, puis c'est très masculin, il n'y a pas de charbonnière. Hein. Et voilà, moi, c'est la fin de cette chanson avec le charbonnier qui se fait couvrir de rameaux et qui se fait ensevelir dans le charbon et son âme qui monte au ciel avec la fumée. Et ben, ça me donne envie juste de rendre un petit hommage à un monsieur qui s'appelait Guy Moxon Et si je ne me trompe pas, si on ne m'a pas raconté de mensonge, les cendres de Guy, elles ont été mises dans la charbonnière avant l'allumage. Et voilà, et si vous avez envie d'en savoir plus sur les charbonnières, et notamment la première charbonnière, le revival des charbonnières, on va dire, en 98, et ben, ce monsieur Guy, il a fait un documentaire qui s'appelle Les Brûleurs de Feu, que vous pouvez voir sur internet, sur Vercors TV.
Brûleurs de bois.
Brûleurs de bois, oui, pardon. Alors, il y a pas mal d'histoires autour des charbonniers. Il y a souvent des. Enfin, voilà, c'est une figure qu'on retrouve dans les contes. En fait, le charbonnier, au début, au XVIe siècle, il était très bien vu. Voilà, on disait maître charbonnier. Il était reconnu comme un artisan, quelqu'un qui avait un savoir-faire. Il était vraiment respecté. Puis au XVIIe, il y a une petite crise. Et XVIIe, XVIIIe et tous les siècles qui ont suivi, le charbonnier est vraiment descendu tout en bas de l'échelle sociale. Et c'était quelqu'un qui vivait à l'écart du village, qui était nomade ou semi-nomade, à l'écart du village dans la forêt, donc l'espace du sauvage, on ne peut pas contrôler ce qui se passe, et qui était noir, on n'aimait pas trop le noir hein, dans la chrétienté, et qui avait un savoir assez mystérieux, puisqu'il savait maîtriser le feu, un feu qu'on ne voyait pas, qui couvait, et il transformait comme ça le bois en charbon, donc il y avait quelque chose de l'alchimiste. Et un peu comme les forgerons, en fait, qui transformaient la matière aussi, il était assez suspect. Donc on le soupçonnait de pactiser avec le diable, ou voilà, de verser dans les sciences occultes. Et donc dans pas mal de contes, eh ben, c'est une figure qui est associée au diable, ou quelqu'un d'effrayant. D'ailleurs, il y a des études qui montrent que ça a été un croque-mitaine pendant longtemps. On menaçait les enfants d'appeler le charbonnier, et puis ça les calmait tout de suite. Et il y a aussi un autre genre de conte où là, il a un peu plus bonne figure. Parce que le charbonnier, on lui envie quand même sa liberté, parce qu'il vit à l'écart du village. Donc lui, il n'est pas soumis au regard des autres, il fait ce qu'il veut. Et puis il est son propre patron, c'est lui qui choisit ses horaires, donc même s'il doit travailler dur pour pas grand-chose, il y a quand même une certaine liberté qu'on lui envie. Et donc ça ressort aussi dans certains contes, où on trouve souvent celui qui est tout en haut de l'échelle, donc le roi, avec celui qui est tout en bas, le charbonnier. Et c'est notamment le cas d'un conte qui a été collecté à Die, et qui raconte qu'un beau jour, le roi, eh ben, il est descendu dans la forêt, voilà, à la rencontre du petit peuple. Et puis la première personne sur laquelle il est tombé, c'était un charbonnier. Alors le roi, bah, il était exactement comme les politiciens ce jour, c'est-à-dire bien déconnecté de la réalité des gens d'en bas. Et donc bah, il lui demande comme ça, « Alors vous êtes charbonnier, et alors vous gagnez beaucoup ?» Le charbonnier lui répond, « Bah non, pas du tout, je travaille énormément, puis je gagne 20 sous par jour. » 20 sous par jour ? Mais comment vous faites pour vivre avec ça ? Lui répond le roi. Bah, on vit. Mais attendez, vous dites on, vous avez une famille ? Vous arrivez à nourrir une famille avec 20 sous par jour ? Vous devez pas être très nombreux. Bah, si, dit le charbonnier, on est 7. Moi, j'ai 4 enfants. Et puis, je vis avec mon père aussi, et puis avec ma femme. Et plus moi, ça fait 7. On vit bien. Le roi, quand il a entendu ça, il est resté bouche bée. Il a rien pu répondre. Il est rentré chez lui. Puis quand même, les jours ont passé et il y pensait à ce charbonnier qui arrive à vivre avec 20 sous par jour. Ah oui, non, j'ai oublié un truc très important dans l'histoire. Pardon. On rembobine. C'est que le roi, donc, ce qu'il a laissé bouche bée, c'est non seulement que le charbonnier est arrivé à faire vivre 7 personnes avec 20 sous par jour, mais surtout qu'il lui a dit, en plus de ça, je mets de l'argent de côté. Et je paye mes dettes. Et ça vraiment, le roi, ça l'a laissé quoi ? Alors, il est rentré chez lui et pendant des jours, il a pensé à charbonnier qui arrive à faire vivre 7 personnes, à payer ses dettes, à mettre de l'argent de côté. Mais comment il fait ? Il doit avoir un secret, c'est pas possible. Il faut qu'il m'explique, quoi. Alors, le roi fait convoquer le charbonnier. Les gardes vont le chercher, ils l'amènent à la cour. Et voilà, charbonnier, tout noir, tout crasseux devant le roi. Et le roi lui dit, écoute, je comprends pas comment avec 20 sous par jour, tu peux faire vivre 7 personnes et mettre de l'argent de côté et payer tes dettes. Et le charbonnier lui répond, bah, c'est très simple. Hein. En nourrissant mon père, je paye mes dettes. Et en nourrissant mes enfants, je mets de l'argent de côté. Le roi, ça lui a tellement plu, ces mots-là, qu'il a décidé de payer une petite pension au charbonnier qui a vécu un peu plus confortablement pour le restant de ses jours.
Alors, une autre histoire de deux célèbres bûcherons charbonniers de la vallée de Quin, dont le nom résonne encore aujourd'hui, les Bouyanne et les Richaud. L'histoire de François Bouyanne et Michel Richaud, bûcherons charbonniers, qui, alors qu'ils étaient sur les pentes d'Ambel, entendent des cris, finalement, de quelqu'un en détresse, et ils voient un des princes du Dauphiné qui essaye d'échapper à un ours. Alors eux, bon, ils ont plus l'habitude, donc ils aident le prince à s'en sortir. Lui, soulagé, veut les remercier. Et pour les remercier, il leur a proposé de les anoblir. Alors ils se sont dit pourquoi pas, et donc c'est comme ça que Bouyanne et Richaud sont devenus nobles. Sauf que ça n'a rien changé, contrairement à l'histoire précédente, à leur revenu. Et du coup, il y a une petite dicton qui est sortie, on disait « riche comme un seigneur de Quin », c'est-à-dire « pauvre comme tous les autres
». Il y en a parmi vous qui connaissent des histoires comme ça avec des charbonniers ? Il y a une autre histoire de roi, où on disait que c'était François Ier qui s'était perdu en chassant et qui avait été recueilli par le charbonnier, qui s'en moquait bien qu'il soit roi, qui lui avait donné la soupe, qui l'avait fait dormir par terre à côté de lui. Et quand il est rentré, il a décidé de récompenser ce charbonnier et toute sa profession en accordant quelques privilèges à la profession, notamment l'exemption d'impôts fonciers, mobiliers et personnels. Et ça, c'est un truc qu'on raconte ici, dans le Vercors. C'est censé s'être passé par ici.
On va vous chanter deux chants qui viennent d'un recueil qu'on nous a donné à Villard-de-Lans. Et c'est un recueil qui a été fait en 1929, enfin publié en 1929, la collecte a été faite un peu avant, par une dame qui s'appelait Marguerite Gauthier-Villard, qui en fait était plutôt la bourgeoisie parisienne, mais qui avait fait une école qui s'appelle la Schola Cantorum, qui avait été fondée par un monsieur Vincent d'Indy, qui était venu précédemment dans le Vivarais, avec d'autres personnes, faire des collectes pareil. C'était un peu toute une période de collecte à ce moment-là. Et donc on l'a déchiffré, et il y a pas mal de pépites dedans, donc en voici deux.
Elle a monté dans sa chambrette en arrachant ses blonds cheveux. Aussi ses beaux pendants d'oreilles les a donnés à son amant. Son petit frère qui la suivait en lui disant « Console-toi, console-toi, chère Nanette, mon cher papa te mariera. » Avec celui que ton cœur aime, mon cher papa te donnera. Celui que mon cœur aime tant n'est point ici, dans ces hameaux. Si tu le vois, tu peux lui dire, si tu le vois, tu lui diras que j'en suis sa charmante belle, je veux mourir entre ses bras. J'ai trois vaisseaux qui vont sur l'eau, qui voyagent sur la mer jolie, vogue sur mer, vogue sur l'onde, en attendant le clair beau temps. Et voilà comment font les filles en attendant leur cher amant.
Une fois qu'ils sont nos époux.